gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Vous êtes bien dans la causerie sur Radio Canu, le 102.2 et puis aussi sur internet radiocanu.org. Et puis autour de la table ce soir, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Fabien.
Salut.
Clara la technique.
Bonsoir.
Et Jonathan qui fait l'ouverture.
Bah oui, bonsoir. Et puis éventuellement vous pouvez nous parler aussi au mail. Alors le mail c'est quoi ?
Le mail c'est quoi? Alors c'est le mail c'est lacauseriecanu@gmail.com, tout attaché en minuscules.
Voilà. Et puis vous pouvez même nous retrouver via les blogs de Radio Canu.
Sur ouais, c'est super coordonné tout ça. C'est sur blogs, donc au pluriel, .radiocanu.org/lacauserie, où vous allez sur radiocanu.org, ce qui est le site de Radio Canu, et dessus vous trouverez la grille des programmes qui vous donnera aussi accès aux blogs, etc., etc.
Et puis même qu'on est aussi sur des gros réseaux sociaux dont on taira le nom ce soir.
Ah, on n'a pas le droit de dire Facebook.
Ah non, c'est interdit de dire Facebook.
Ah, c'est jamais interdit quoi, c'est juste qu'on cite une marque quoi.
Voilà.
C'est vrai.
Et puis évidemment, on fait des gros bisous aux causeuses qui ne sont pas
ouais.
Là.
Ouais, et ben c'est
bah
qui
oui, on fait des gros bisous à Nadège et puis on fait des gros bisous à Emma aussi.
C'est ça. Et ben, ouais. Et ben voilà, c'est fait voilà. Tout ça.
Fab, tu voulais pas nous dire un petit truc ?
Oui, ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai été interpellé par 2-3 personnes, dont une personne de Radio Canu qui se reconnaîtra, qui m'a dit « Oui, la semaine dernière, t'as dit qu'on en faisait trop sur David Bowie, mais quand même, David Bowie, c'était David Bowie. » Alors, en fait, je me suis mal exprimé, parce que vous remarquerez qu'on lui a rendu hommage à la fin de l'émission, donc c'est qu'on aime bien Bowie aussi, et moi en particulier. Je voulais juste dire que j'en avais marre de voir des médias qui lui avaient craché sur la gueule pendant des années, style TF1, Le Figaro, tout ça, bah lui rendre des hommages comme si c'était comme s'ils l'avaient apprécié et ils avaient soutenu sa carrière alors qu'ils ont fait ils ont passé 40 ans à le descendre, et je trouvais que c'était un peu indécent de leur part de le pourrir. Et voilà, c'était ça que je voulais dire, et pas qu'on en faisait trop sur la mort de Bowie. C'est, j'ai un peu fait un raccourci rapide, voilà. Et j'ai de l'écho moi dans mes oreilles, je sais pas vous.
j'avais envie de faire une petite blague, c'était Grand Control to Major Tom, ok,
c'est ça.
Ok.
Ouais, ça c'est fait.
Pardon.
Eh ben continuons. Et on va aller se balader du côté du Wisconsin avec Jean-Yves.
Merci, tu m'évites de le répéter. Non, alors effectivement, ben, ce soir, j'avais envie de vous causer d'une BD qui s'appelle Blankets, Manteau de neige, et c'est de Greg Thompson. Et c'est chez Casterman Éditions, dans la collection Écriture. C'est un roman graphique de 600 pages. Et ouais, quand même.
Un petit pavé, quoi.
Ouais, c'est un petit pavé, mais moi, je suis pas habitué à ce format de BD, par exemple, enfin, de roman graphique. J'adore les appellations de tous les milieux et tout ça. Donc, c'est un gros livre avec plein d'images et une histoire dedans. Voilà.
Merci.
Non, alors. Je vais pas faire long sur Greg Thompson. Il est né, je crois, en 75, effectivement, c'est ça, dans le Wisconsin, comme on va le découvrir dans son livre. Et Alors, c'est pas son seul ouvrage. Il a écrit plusieurs. Alors, je sais pas si c'est tous des romans graphiques. Il a écrit Adieu Chunky Rice en 99, Un Américain en balade en 2005 et Habibi en 2011. Alors, franchement, je pense que je vais aller voir parce que je crois que les deux derniers, Un Américain en balade et Habibi, c'est un. Enfin. C'est nouveau, un peu le même format, et où il raconte bah, ses voyages, effectivement, et des rencontres, je crois, entre un enfant et une... Alors, je sais plus si c'est une prostituée ou une... Enfin, je sais plus, quelqu'un qui est pas forcément dans la meilleure des situations.
En tout cas, Un Américain en balade va être adapté à l'écran, oui.
D'accord.
Dans l'année prochaine, je crois, mais je sais plus par qui.
Ok, et eh ben ok. Et eh ben alors, bah, avant de découvrir les autres, hein, que je vous invite à ouvrir,
celui-là.
Découvrons déjà, effectivement, celui-ci. Alors, pour repositionner un petit peu tout ça, en fait, c'est bah, il va nous parler de pendant sur 600 pages, il va nous parler de sa jeunesse, alors de 6-7 ans jusqu'au début de l'âge adulte, on va dire, avec une grosse partie quand même axée sur son adolescence, parce que ça va être le moment où il va rencontrer quelqu'un et avec un peu plus des par moment un peu des flashbacks où on va être un peu plus longtemps sur son enfance, à vraiment sa tendre enfance. Et donc voilà. Donc j'ai quand même cité 2-3 personnages qu'on retrouve dans le bouquin. Il y a donc Greg. Donc effectivement c'est l'auteur. Il y a Phil, son petit frère. Il y a les parents. Il y a aussi Raina, dont je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard. Et puis après, on rencontre aussi des pasteurs, on rencontre aussi une grosse bande, une bande de gros blaireaux à l'école. Enfin voilà, il y a plein de personnages qu'on rencontre aussi, qu'on a pu rencontrer, nous toutes ou tous, durant notre petit parcours de vie. Et donc, en fait, bah voilà, donc ça commence effectivement dans une ferme, dans le Wisconsin, dans une famille quand même assez modeste. Je vais rajouter quand même ça aussi, une famille baptiste, donc très pratiquante, très religieuse, très croyante.
Pour ceux qui ne savent pas, les baptistes, c'est un courant... Oui, moi j'ai une voix bizarre dans ce micro. C'est un courant du protestantisme, mais c'est un courant extrêmement, on peut dire quasiment fanatisé du protestantisme.
Bah, ouais, justement. Alors, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et alors, donc, pour continuer quand même à dresser un petit peu le portrait de la famille, de l'environnement dans lequel il va grandir, c'est une éducation quand même assez... je la trouve un peu dure. Alors après, on pourra peut-être en reparler, parce que Jonathan a lui aussi ce roman graphique. En tout cas, on peut dire une éducation à l'ancienne, avec un père qui est l'autorité, hein, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne contredit pas, pardon.
Extrêmement traditionnel, en fait.
Ouais, très, très, très... Enfin, des fois, moi, je le trouvais très, très, très dur, mais vraiment. Il y a aussi bah, le catéchisme, tout ça. Il partage aussi bah, le lit avec son petit frangin. Alors, tout ça, c'est pas pour faire larmoyer, hein, c'est juste pour poser un cadre, voilà, dans lequel on grandit, dans lequel, en tout cas, il a grandi. Et il disait lui-même, en fait, nous étions piégés dans le même lit et nous n'avions pas à discuter. Donc voilà, c'est pas non plus un choix. Donc c'est aussi pour ça que je voulais quand même le relever. Et son petit frère, en fait, donc Phil, dont je rappelle son petit prénom, eh ben, lui, il a pas une situation vachement plus enviable, voire peut-être moins, je sais pas. Enfin, je sais pas si on arrive à hiérarchiser. Et, enfin, c'est un peu, c'est lui qui ramasse quand même beaucoup. Même plus que son frère, que Greg, l'auteur. Et
Dans tous les cas, il y a quelque chose qui apparaît, c'est la notion d'injustice. Ouais. Dans le traitement des deux enfants, ils ne sont pas du tout traités pareil. Ouais. Et on sent un aveu de la part de l'auteur d'un traitement de faveur envers l'aîné. Quoi.
Mmh, c'est ça.
C'est souvent le cas. En fait, quand on regarde bien, c'est souvent l'aîné qui a un traitement de faveur, entre guillemets. Alors, je parle dans les familles traditionnelles, parce que du coup, c'est celui qui reprend le nom et qui sera l'héritier premier. Donc, on le bichonne,
ouais,
comme une voiture.
Alors que le petit, bah, lui, il fait pipi au lit. Alors, c'est pas grave en soi, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est, voilà, est-ce que derrière aussi, ça devrait pas plutôt soulever des interrogations des parents plutôt que de la sanction. Enfin, ce gamin, enfin, il va être puni à dormir dans un cagibi où il y a pas de lumière, il y a pas d'aération. Enfin, voilà, c'est pas ce qui est le plus sympathique comme enfance quand même. Donc voilà. Et puis, bon, pour revenir à l'auteur, quand même, Greg, bah, lui, on se rend compte que bah, à l'école, c'est quand même le souffre-douleur parce qu'il est maigre, parce que
sa famille est très croyante aussi.
Aussi, ça lui revient aussi dans les dents et que, enfin, ce serait un peu un pauvre, hein. C'est, il y a un peu ça quand même qui est sous-entendu. Donc c'est quand même, enfin voilà, c'est pas rien. Oh, je suis désolé, j'arrive pas à me relire.
Ça, c'est embêtant.
Ben oui. Qui aime pas, alors ça aussi il le verbalise, c'est qu'il aime pas l'autorité de son père. Il y a quand même un moment donné où il le dit, j'aime pas comment il se comporte, mais il le dit pas face à son père parce qu'un père on ne le contredit pas.
Il y a de la violence elle est sous-entendue ou exprimée, je sais pas.
Ah, elle est présente et elle est très présente. Psychologique.
Oui. Non mais je parle de la violence au sens large.
Mais je veux dire, le petit frère qu'on enferme dans le KGB, c'est un soir parce qu'il y a le Y à la baraque, le père il vient, d'accord, il dit bah toi tu veux dormir tranquille, et eh ben tiens. Il le jette dans ce cagibi, quoi.
C'est vraiment violent.
Ouais.
Il y a une image, il déplie un lit pliant et puis le lit devient une espèce de crocodile avec des dents immenses.
Ok, non, c'était pour avoir le climat un peu.
Oui.
Pour en profiter, pour rebondir juste sur le fait que c'est vrai que malgré cette espèce de violence, cette brutalité dans l'éducation, il y a quand même un cadre bienveillant. C'est-à-dire que l'auteur n'est pas dans le tout noir ou tout blanc, ou pas du tout dans le pathos.
Ouais.
Et il va reconnaître un petit peu le cadre bienveillant, même si c'est très traditionnaliste, même si l'autorité du père est incontestable, qu'on peut tout à fait reprocher, avec un regard un peu plus éclairé.
Oui, mais il y a quand même une forme d'amour, même si elle est maladroite.
De sécurité, surtout, en fait. Et il va employer ce mot-là. Il va dire, finalement, à un moment donné, il veut partir, et puis il va quand même dire, mais là, je connais mes limites, là, je connais ma sécurité.
D'accord.
Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'en partir. Donc, c'est aussi comme ça qu'il va accepter la brutalité, la violence du cadre familial.
Et du coup, c'est un peu il prend un petit bout de bon dans tout ce marasme un peu noir, quoi.
C'est ça. Ouais. Et pour fuir aussi un peu cette réalité là, parce qu'il a quand même envie de la fuir. Enfin, c'est toute cette contradiction, mais c'est les contre. Enfin, moi, je trouve que il est vraiment très humain ce roman graphique, parce que justement, en fait, on est tous et toutes pleines de contradictions, en fait, de sentiments qui sont. Ben, autant on peut avoir de l'amour pour certaines personnes, et en même temps, il y a une part de nous qui peut nous dire quand même, quoi. Tu n'as pas forcément envie. Enfin, et je trouve que sur ça, effectivement, t'as raison là-dessus. Sur tout ce que t'as dit jusqu'à maintenant, Jonathan, pardon. Non, mais ça faisait très. Attention, là, t'as dit une connerie. Non, et je trouve justement, t'as raison. Enfin, on passe par plein de sentiments différents, par des. Je t'aime, moi non plus. Enfin, c'est vraiment. Très humain.
Même par rapport à la religion, si tu regardes c'est très contesté dans ce livre, et ça se termine comme ça, mais c'est son refus. Comme tu disais, il fuit la réalité, et le premier moyen de fuite qu'il trouve, c'est Dieu. C'était cette espèce d'imagerie de Dieu. Donc c'est ça aussi, où c'est, quand tu dis qu'il exprime des contradictions, c'est ça, c'est que tout ce qui va remettre en question, tout ce qui va déconstruire, c'est aussi des choses desquelles il admet, et c'est là un petit peu la franchise de l'auteur, que ça lui aura servi à un moment dans sa construction.
Mais c'est le propre d'une déconstruction, c'est que tu jettes pas tout avec l'eau du bain, voilà. Pas le bébé avec l'eau du bain.
Ouais. Et pour je reviens, je suis désolé, pour continuer, cette fuite, on va dire, en tout cas, de cette réalité-là, ou d'une partie de cette réalité-là, il y a l'imaginaire, on le voit vraiment, je trouve que ça, c'est vachement bien exprimé aussi, quand il fait ses délires de gamin qui se croit au volant d'une voiture, alors qu'il est juste posé, voilà, et puis il y a aussi le dessin, et en fait, dans ces activités-là, il va aussi créer un lien avec son frère. Alors il le dit bien, il dit, je sais pas si c'est parce qu'on construisait vraiment quelque chose ensemble, ou est-ce que parce qu'il était sécurisé d'être avec moi, mais en tout cas on les voit vraiment prendre du plaisir à deux, et je trouve que là aussi c'est très très bien mis en image par l'auteur. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose d'hyper productif, quand ils sont sur leur lit et qu'ils se pensent dans une plaine, dans une grosse tempête. Enfin voilà, il y a quelque chose où justement ils essayent de créer cette bulle à eux qui leur permettent de prendre des bouffées d'oxygène, en fait. Donc voilà, on continue après, on suit donc effectivement Greg toujours dans son enfance, son adolescence. On va aussi rencontrer ses cours de catéchisme, on va rencontrer un pasteur qui lui veut vraiment du bien, parce qu'il a envie que Greg y rentre dans les ordres quand même, il revient quand même assez régulièrement lui sous-entendre que ça pourrait être bien quand même que tu rentres dans les ordres, tu sais. Parce que tu te poses des questions, et c'est bien que tu te poses des questions. Alors rentre dans les ordres.
T'en poses pas trop quand même.
Ouais. Et après, je l'avais relevé aussi, c'était ces contradictions entre, alors, c'est pas les mêmes qu'on avait citées jusqu'à maintenant, mais entre religion, entre certains interdits et ses créations artistiques. Je repense à une séance de destruction, je veux pas trop en donner, mais de destruction où il a en tête des psaumes en fait qui reviennent. Il revient avec des choses de son caté, on va dire quoi.
C'est l'ancrage. C'est quand même l'ancrage, c'est-à-dire que ce qu'on vous rabâche enfant des dizaines et des dizaines de fois, ben forcément au bout d'un moment ça s'ancre dans votre esprit.
Et oui.
Et ça sert en fait à je vais le dire, pour moi, les religions ont ce rôle-là, c'est-à-dire d'ancrer des choses et de tuer l'esprit critique. Donc, du coup, après, on a du mal à s'extraire de ce qu'on nous a bassiné toute l'enfance.
C'est ça, et puis aussi des contradictions entre la religion et ses émotions, ses sentiments. Il va justement rencontrer Raina, qui va être sa première amoureuse, et là aussi, on va vraiment le suivre dans une descente, parfois. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment des fois... Ouais, je trouve qu'il y a vraiment cette descente où il repense à Raina, où il pense aussi, il y a des psaumes qui reviennent aussi, je crois, à ce moment-là, où il y a contradiction, quoi. Parce que les plaisirs de la chair, rappelez-vous quand même que c'est très mal vu, hein, quand même, le plaisir de la chair. Déjà, le plaisir, c'est très mal vu, alors de la chair, imaginez, dans les religions, je rappelle.
Et en particulier dans le protestantisme allemand, baptiste.
Et donc, effectivement, on suit quand même ce personnage avec toutes ces tiraillements, quoi. Enfin, j'ai adoré. Alors, je vais en profiter aussi. Je vais faire un gros bisou à Roman et Pauline qui m'ont offert ce bouquin. Je ne connaissais absolument pas. Et vraiment, enfin, c'est riche de plein de choses. Alors, il n'y a pas de leçon globale à tirer ou j'en sais rien. C'est un parcours de vie. Et je crois qu'à la causerie, on aime bien, en fait, les parcours de vie quand même.
Oh non, pas du tout.
Les individus comme ça qui traversent des choses. On a tout là-dedans, quoi. On a de la tristesse, on a de la colère, on a de la création, on a de la frustration, on a. Enfin, vraiment. Et.
Ouais. C'est extrêmement honnête. C'est-à-dire que moi, la chose que j'ai relevée, c'est que c'est extrêmement honnête. L'auteur se place, tu le disais tout à l'heure, on en parlait, ne se place pas en héros particulièrement. Non. Il ne se place pas non plus en victime. Non plus. Donc c'est presque factuel.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, je vais quand même rajouter deux, trois trucs. Enfin, tu vas peut-être dire un truc.
Vas-y, non, vas-y, je verrai après si ça répond à ma question, peut-être.
Ok. Il y a un truc quand même, c'est souvent quand je lis un truc, je prépare une chronique, j'aime bien aller me balader, voir ce que d'autres personnes ont pu ressentir par rapport à ce livre. Et moi, il y a un truc qui m'a un petit peu fait bizarre, c'est que je spoil ou je spoil pas, mais c'est pas grave. Bref, pardon, je rentre dans un monologue.
C'est pas grave de
spoiler.
Le spoil n'est pas grave.
Et non, en fait, il va clairement... pour moi, il le dit clairement qu'il est victime, lui, mais son frère aussi, de pédophilie, en fait. Et je suis vraiment un peu halluciné parce que j'ai vraiment ouvert pas mal d'articles, pas mal de... Personne ne le relève. Et là aussi, En tout cas, lui, il a l'honnêteté de le dire. Enfin, c'est pas l'honnêteté, mais il a le courage, en tout cas, de le dire. Alors, effectivement, hein, il passe pas du tout 300 pages sur les 600 à parler de ça. C'est, encore une fois, c'est presque là où ça revient factuel. C'est-à-dire, voilà, c'est ça.
C'est arrivé, quoi.
C'est arrivé. Par contre, effectivement, et c'est là aussi où je rejoins encore une fois Jonathan, c'est là aussi où on va voir vraiment qu'il ne se positionne pas comme dans une position favorable. Mmh. Il le dit clairement, il se sent vraiment une merde dans ce moment-là. Pas forcément par rapport à lui-même, mais c'est par rapport à son frère, en fait.
Parce qu'il n'a pas réussi à le protéger.
Il ne l'a pas protégé. Et c'est tout ça. Enfin, ça dure pas longtemps. Hein. C'est pas énormément de pages, mais moi, je suis quand même halluciné que personne l'ait relevé.
Mais ça revient quand même. C'est important dans son récit parce que ça revient deux fois. Mmh. Peut-être que c'est. Il y a un truc aussi. C'est tellement factuel que c'est un peu gênant. Dans le sens où peut-être. Quand on est dans le pathos, quelque part, il y a ce truc où on peut compatir, où on peut se retrouver, on peut même s'identifier. Là, non.
Là, t'as pas le temps, limite. Enfin, c'est trois grilles, quoi.
Mais je crois que c'est un peu... Enfin, j'ai pas lu le livre, mais moi, comme vous le décrivez, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Comment on peut dire ? Un peu comme quand vous demandez à quelqu'un dans une soirée, alors ça va ? Alors la personne dit oui, ça va. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie ? Et que la personne déballe sa vie. Puis d'un seul coup, elle vous dit des choses qui sont dans sa vie, mais qui peut vous allez recevoir un peu bizarrement, parce que d'un seul coup, vous attendiez pas à ce que la personne dise ça à ce moment-là. Et je pense que les critiques, c'est exactement comme les autres êtres humains, voire même c'est pire, parce que souvent les critiques, ils osent pas rentrer sur des sujets polémiques de peur après de pas pouvoir critiquer d'autres livres parce qu'on va dire oui, mais en fait t'as subi ça, voilà. Donc je pense que le métier de critique est un des pires métiers qui soit, mais à titre personnel, parce que justement on est toujours en train d'être à cheval sur entre ma carrière et ce que j'ai vraiment envie de dire. Et du coup, je pense que cet aspect-là, il a été gommé par les critiques parce que ça rentrait sur un sujet polémique. Et quand vous devez vendre ça à un journal ou à un blog, eh ben c'est pas forcément simple.
C'est pas vendeur.
Donc du coup, ils se disent, oh bah il en a pas fait toute une histoire, donc on va pas en faire une histoire non plus, on va carrément pas en parler. Mais vous savez, c'est comme dans les soirées, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est lourd entre guillemets, enfin pour les gens qui reçoivent, hein, pas pour la personne elle vous dit juste voilà, c'était ma vie, et que les gens du coup ils font ah mais il était bon le saumon. Voilà.
Oui, ça fait un peu cet effet-là.
C'est ça, ouais. Mais c'est vrai.
Et je pense que c'est voilà, sur ces sujets-là, et c'est très fréquent, mais c'est voilà, sur la pédophilie, l'inceste, le viol, à chaque fois qu'il y a des ouvrages ou des films qui parlent de ces sujets, mais qui n'en sont, dont ce n'est pas le cœur, mais où ça fait partie du récit, bah vous verrez, les critiques passent à côté. C'est-à-dire que, oula, n'ouvrons pas la porte, alors que le réalisateur ou le dessinateur ou l'auteur, ils ne l'ont pas mis par hasard. C'est parce que ça fait partie d'un ensemble du récit. Mais pour les critiques, souvent, c'est « Ah non, parce que là, il va falloir que je me justifie après. » moi, je l'analyse comme ça, peut-être c'est une erreur, mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu ce qu'on voit beaucoup dans... Je fais un peu le parallèle avec les critiques de cinéma, où voilà, il y a des films où on voit des choses très dures, et puis les critiques « Ah, bah, la caméra, elle était vachement bien placée. » C'est pas vraiment le sujet du film, en fait. Enfin, voilà, c'est...
Et ben voilà, enfin je vais pas en faire beaucoup plus que quand même 22h20.
Moi j'avais une question, du coup ça a pas vraiment répondu à ma question.
Ah pardon.
Je voulais savoir à partir de quand on peut lire ce livre. C'est enfin parce qu'on sent que c'est un récit de déconstruction, c'est-à-dire on se rappelle de son enfance et on voit où on est arrivé aujourd'hui. Et toi tu dirais je sais pas pour des ados, pour des adultes,
Ah moi je pense des ados ils peuvent lire ça, non ?
Moi je suis quelqu'un qui suis contre le fait de protéger.
Oui, non, mais moi, mon sens, est-ce qu'on comprend pas, est-ce qu'on protège,
Alors, par contre, c'est extrêmement clair. Je pense que ça aussi, ça fait la force et en même temps l'aspect un petit peu choquant du bouquin, c'est que tout est très clair. Ouais. Tout est, et même c'est une traduction du coup, parce que c'est un petit peu qui vient des États-Unis. Donc, c'est extrêmement bien traduit. Et c'est, enfin, du moins, ça fait sens et c'est très très clair. Donc, je pense que même, bon, peut-être pas petite enfance, parce que c'est, il y a quand même des choses dures, mais voilà, enfin, sans forcément,
10-12 ans, l'adolescence, c'est largement, ouais. Alors, je vais pas faire longtemps encore. Je le conseille aussi à toutes celles et ceux qui ont la bienveillance toujours de traiter, de conseiller toujours que les religions, c'est pas forcément mauvais. Sans en connaître en fait les méfaits. Merci. Et en fait, alors c'est un positionnement très personnel et je sais pourquoi je le dis, mais en tout cas lisez-le pour voir en fait ce qui s'imprègne dans les cerveaux.
C'est ce que je disais, matraquage.
C'est ça. Lisez-le pour voir tous ces interdits qu'on devient notre propre bourreau par ces interdits qu'on nous a inculqués. Et alors moi c'est un avis très personnel, mais vraiment je le conseille, ne serait-ce que pour ça, pour se rendre compte du poids. Que c'est en fait cette chose-là où tant de gens aiment dire que c'est tellement bien pour les gens. Et ben je trouve que là on a une vision intérieure en fait.
Non mais c'est intérieur et puis ça montre un truc qui est très subtil, c'est comment on intériorise tout un tas de concepts religieux, comment on les adapte à une vie quotidienne qui est pas forcément facile et comment finalement comment on est manipulé pour la supporter et pour ne pas se rebeller, parce que c'est ça, jusqu'à ce qu'il parte de chez ses parents, il ne se pose pas la question et il a même honte. Donc le propos du livre c'est ça aussi, c'est qu'à la fin il dit non, je ne suis plus croyant, et il en a honte. Ouais. Donc ça fait un peu double peine pour le coup.
Ben oui, et en plus il faut repositionner aux États-Unis. Voilà. Et ben en tout cas, je pense qu'on est deux en fait à vous conseiller ces 580 pages de dessins
complètement
et d'histoire. C'est du noir et blanc. Alors
noir et blanc dans lequel on voit des couleurs. Et très sincèrement, moi, je l'ai lu tout à l'heure et j'avais pas l'impression de lire tout le temps une bande dessinée
c'est,
en noir et blanc.
C'est vrai. Et enfin voilà, il y a des traits très simples, des visages qui sont très simples. Par contre, il y a d'autres envolées. Il y a des, on se balade dans une couverture avec les personnages. Enfin, c'est vraiment, il y a des envolées quoi. Moi, j'adore.
Et n'ayez pas peur des 600 pages, hein, parce que en 2h30 ça se lit.
Ouais.
2h30, 3h, ouais. Vous avez une après-midi. Prenez-la pour ça.
C'est ça. Et ben voilà. Et je rappelle, le titre, c'est Blanquettes, manteau de neige de Greg Thompson aux éditions Casterman Collection Écriture. Et ben, je crois qu'on a fait assez long, donc on va passer tout de suite à la musique. Et vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu tous les dimanches de 22 à 23h. Et on vient de s'écouter un titre de l'artiste Moonkopf. Et le titre, c'était Immolate. Voilà. Et je passe rapidement le micro à Jonathan qui va nous parler d'un menu malbouffe de luxe.
Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler du menu malbouffe de luxe, que c'est moins pire d'abord. Alors, tout part d'un article aperçu dans le 20 minutes par un très bon ami à moi. Un peu plus, c'est tout. Et qui est paru le 9 janvier 2016, qui disait que les Français sont séduits par le fait de manger plus sain, et donc ils vont avoir tendance à éviter la nourriture avec gluten, avec OGM, avec pesticides, avec trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Enfin, ils appliquent le manger bouger à la lettre. C'est pour ça qu'ils vont dans des fast-food bio, équitables, qui font de la bonne nourriture qui a été élevée en France, ou du moins où on sait d'où elle vient, etc. Et donc, il y a une sorte de parallélisme entre le côté je veux me nourrir sainement. Et du coup, je vais me tourner vers le fast-food alternatif et la world food. Donc, ce qu'on appelle la world food, c'est grosso modo kebab, tandoori, falafel, japonais, etc.
Parce que si quelqu'un arrive à me dire ce qu'il y a dans les tandoori, moi je suis preneur. Enfin, d'où vient le poulet, tout ça.
Ah oui, okay. Non, mais c'est... Alors, voilà, c'est là où... Déjà, donc, Fab, tu soulèves très bien le paradoxe. C'est qu'au lieu d'aller bouffer un McDo... Bon, qui en soi est très réglementé hein, par des normes d'hygiène, de conservation, de provenance, etc. Parce que c'est mal le McDo, c'est quand même l'hyper-consumérisme, la nourriture rapide, le gaspillage, etc. On va essayer d'aller vers une nourriture alternative. On va aller manger, par exemple, un kebab. Mmh. Voilà. Alors moi, je suis la première à faire ça. Hein. Voilà. Donc, je vais parler en toute connaissance de cause pour la suite. C'est tu m'invites à bouffer dehors, tu me dis on va se faire un McDo, un Quick ou un kebab ou un indien. Moi, je vais te dire ah non, viens, on va se faire un tandoori quoi. Donc voilà. Pourquoi ? Ben parce que finalement, tout repose sur un problème de définition. Donc tu te dis bah j'ai pas envie de manger de la nourriture de grosse chaîne, malsaine, grasse, etc. J'ai quand même envie de manger dehors parce que manger chez moi ça m'emmerde, faire la bouffe ça me fait chier et du coup j'ai bien envie de me faire servir aussi. Peut-être pas d'aller dans un resto parce qu'un resto c'est cher. Et puis je vais essayer de manger un truc qui soit un peu entre les deux, un peu alternatif et je vais essayer de me trouver un fast-food sain. Donc déjà là il y a un paradoxe. Alors là-dessus c'est un constat qui a déjà été fait hein. Donc les Français mangent de plus en plus à l'extérieur, mangent de plus en plus de nourriture rapide et donc les certains grands chefs en France se sont un petit peu insurgés contre cette malbouffe, le fait que finalement on va aller un petit peu trop rapidement vers de la nourriture qui est préparée dans de mauvaises conditions dont on ne connaît pas forcément la provenance, donc ce que tu disais sur les tandoori.
Tu veux dire Jean-Pierre Coff par exemple? Oh, c'est de la merde tout ça, non?
Alors lui pas particulièrement.
Non, c'est comme il a fait de la pub après pour de la malbouffe.
Mais oui, voilà, oui, c'est vrai que c'est Jean-Pierre Coff qui va te dire c'est de la merde et puis qui te fait de la publicité pour des taboulés tout près d'une certaine marque que nous ne citerons pas. Mais là, il y a notamment. Alors, c'est paru dans un article de Slate de mars 2014. Hein, donc, tout un groupuscule de grands chefs étoilés français qui s'insurgent contre la malbouffe, qui vont recruter des chefs un petit peu partout en France, qui vont essayer de faire en sorte que dans les restaurants, on évite le gras, le sucré, le surgelé pour donner du goût. Et. Dans ce groupuscule s'appelle en fait le Collège culinaire de France. Et parmi les fondateurs, une superbe image lyonnaise de la nourriture, j'ai nommé Monsieur Paul Bocuse. Ça c'est Paul. Hein.
Oui, c'est Paul.
Oui, voilà. Alors oui, parce que je ne suis pas de Lyon à la base. Donc Monsieur Bocuse, dans cet article de Slate, fait partie des gens qui disent ah mais faut arrêter de bouffer malsain, là. Il faut faire quelque chose. Parallèlement. dans la même année, il crée une chaîne de restauration rapide qui s'appelle l'Ouest Express. Et c'est là qu'on arrive au menu malbouffe de luxe.
Nous y voilà.
C'est finalement, tu peux prendre un burger qui va être élaboré à partir d'une recette d'un grand chef. Donc ton burger, quoi qu'il arrive, hein, il est retourné dans du beurre. Il y a de la sauce, il y a des frites. Les frites, tu les cuis dans du gras. Même si c'est un tout petit peu de gras, même si c'est du super bon gras de canard, j'en sais rien. Je suis pas encore allée bouffer là-bas, donc je vous le dirai peut-être à la prochaine causerie si c'est bon ou pas. Et t'appelles ça l'Ouest Express parce que du coup tu fais référence à une très grosse, un beau restaurant sur la place Bellecour de ce même chef. Et puis tu sers un pinard, hein, avec un bon pinard, un truc un petit peu de qualité, un Côte du Rhône qui sent bon, qui a de la saveur, tout ça, avec donc ton super burger ou ta grande salade avec tout un tas de trucs dedans. Et donc, pourquoi ça marche ? Ben parce que finalement, on se dit, le fast-food, c'est malsain, mais là, comme c'est de la bouffe de luxe, c'est sain.
En fait, c'est des meilleurs produits, mais ça reste du fast-food.
C'est ça. La question, en fait, ici, c'est d'utiliser comme argument marketing un amalgame entre cuisine de qualité et nourriture de qualité. C'est-à-dire que on va proposer de la nourriture de qualité, certes, parce que bah, finalement on va choisir le meilleur morceau dans ton bœuf qui va être découpé, haché, etc. On va peut-être choisir des légumes plus frais, des choses... voilà. Mais la cuisine en soi reste grasse, reste salée, et c'est quand même de la junk food. Donc, on met en valeur finalement cette junk food, parce que c'est ça, une nourriture de drogué, faut dire aussi que ça en est. Donc, là-dessus, on crée le fast-food de luxe, et on crée un parallèle avec la sanité de ce qu'on absorbe dans notre corps. Donc voilà, c'est un courant marketing efficace, parce que à qui on va vendre ça ? À toute une tranche de population qui jusqu'ici refusait d'aller dans des fast-foods parce que c'était malsain, parce que c'était financé aussi des grosses chaînes, une exploitation du personnel, etc. Et donc là, on va séduire. On va séduire par quoi ? Donc par la qualité des produits, mais aussi par la présentation. Donc on va avoir tout un tas de petits restaurants avec une devanture verte. Je pense aussi à une grosse chaîne de restaurants qui a attaqué comme ça, qu'on ne nommera pas, mais qui commence par un sub et qui finit par un way. Ou alors qui propose de la cuisine maison, ou alors des fruits et légumes. Donc pareil, une grosse chaîne de restauration qui te propose en dessert des fruits sous cellophane.
Et découpés parce que t'es un peu feignant pour...
Voilà, non mais faudrait quand même pas faire trop d'efforts, tu dépenserais les calories. Donc voilà, donc finalement la junk food va vers on va quand même manger sain et bio et beau, etc.
En fait, c'est un peu un élargissement du marché.
C'est un élargissement du marché complètement.
Comme, je vais être très très schématique, le marché des pauvres était saturé, parce que très clairement, on va rappeler qu'historiquement toutes les grandes chaînes de restauration rapide qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs même la notion de kebab, parce que le kebab a été inventé en Allemagne et pas du tout en Turquie, contrairement à ce que les gens croient. Ça vient au départ parce que c'était pour faire rapide et pas cher. Et c'était pour les ouvriers qui, entre midi et deux, avaient peu de temps. Donc ils allaient vite manger de la bouffe rapide et pas cher. C'est né comme ça, en fait, l'idée de junk food, parce qu'est devenu après la nomination de junk food.
Donc, c'était fast food.
Mais donc ça s'adressait. Ouais, fast food, voilà. Et ça s'adressait avant tout au départ aux pauvres.
Mais oui. Mais c'est là, j'allais y venir tout à fait, c'est que c'est ça, c'est qu'on propose maintenant, c'est le principe de la malbouffe de luxe. C'est que c'est ça, c'est que finalement, on cherche une nouvelle tranche de consommateurs à trouver, moyen d'étendre le marché, et du coup, les arguments qu'on utilise, c'est ça, c'est tu vas manger de la nourriture rapide de qualité. Donc c'est forcément bon pour le dedans de ton corps.
Ça c'est, je trouve que c'est un raccourci énorme, quoi.
Mais c'est le problème, c'est
que tu bouffes 3 kilos de comté bio, ça te rend autant malade que 3 kilos de comté pas bio.
Mais exactement, c'est là où ça me perturbe un petit peu. Alors en réfléchissant le sujet, etc., on a un petit peu plaisanté en disant que c'était une nouvelle clientèle qui refusait le McDo, un petit peu bobo parisien, tout ça, machin. Mais C'est ça, c'est des gens qui ont les moyens de toute manière de manger mal, s'ils le veulent, sauf que chez eux, comme dans leur culture, parce que c'est une histoire de culture et de classe, encore une fois, on leur dit, il faut que tu manges sain, il faut que tu manges des légumes, on leur apprend à cuisiner d'une certaine manière qui n'est pas la même, parce que quand tu bouffes des pâtes tous les jours, en effet, c'est malsain. Quand tu as les moyens de te payer de la bonne viande et des bons légumes, c'est autre chose. Donc bon, on va pas s'étendre sur le sujet, mais c'est ça, c'est, on va aller chercher cette clientèle en donnant un look bobo bio à ton fast-food. Et donc, ça, c'est corrélé. Donc, jusqu'ici, on est sur Slate, sur le 20 minutes, sur des sources qui sont...
du très haut niveau.
Voilà. Assez populaire. Mais finalement, quand on regarde en parallèle un article du ministère de l'Agriculture et de l'INSEE qui est paru en janvier 2012 et qui dit que le budget alimentaire des foyers en pourcentage diminue entre 1960 et 2007, donc sur 50 ans. Mais que les autres dépenses, dont les loisirs, augmentent. Et dans ces loisirs, il y a quoi ? Il y a la nourriture à l'extérieur, il y a le fait d'aller manger dehors. À côté de ça, la consommation des foyers en pommes de terre, en pain baisse, mais l'augmentation de la consommation des fruits et légumes est visible. Que la consommation de bœuf en viande diminue également, mais la volaille, les viandes blanches, le poisson, les œufs augmentent, donc toujours dans cette idée de manger sain. Mais qu'à côté de ça, finalement, dans un article d'une revue économique qui s'appelle Challenge en 2014, on s'aperçoit que le Conseil sur la restauration constate une consommation alimentaire hors domicile et particulièrement dans la restauration rapide. Donc une augmentation de ce type de consommation-là, on peut se poser la question comment on a réussi à retourner le concept marketing de s'alimenter bien, s'alimenter beau, parce que c'est ça, s'alimenter beau. On revient aussi sur une remarque qu'on avait fait pendant la prépa, mais c'est que c'est encore une histoire de packaging, d'apparence, de finalement comment traiter sur l'extérieur. Donc tout ce marketing qui est basé sur une idée de nourriture de qualité, donc saine, zappe totalement le fait que c'est pas parce que tu bouffes un truc qui a une origine certifiée, qui est bien préparée, que tu vas éviter de boucher tes artères. Ton corps ne te pardonne pas parce que tu manges du luxe.
Oui.
Et c'est ça. Et en fait, finalement, on a trouvé le moyen de faire dépenser, même à des classes plus populaires, beaucoup de fric pour ces choses-là. Parce que c'est ça aussi, c'est proposé. Enfin, finalement, c'est accessible à tous parce que ça reste dans des tranches de prix abordables. Donc, la personne qui est dans une classe économique moyenne, basse, va se dire c'est quand même abordable et je vais manger mieux, donc je préférais sortir dans ce type de choses-là. Et donc, on va voir beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui vont sortir dans des brasseries burger, par exemple, ce genre de choses, ou comme je disais tout à l'heure, privilégier peut-être d'aller manger un menu indien à 10 balles plutôt qu'un McDo à 14. Mmh. Voilà. Et on oublie dans tout ça que plus sain, déjà c'est différent de moins calorique, parce qu'il y a ça aussi, hein, ça va avec toute la propagande gouvernementale du manger, bouger, etc. C'est pas forcément parce que la nourriture est plus saine qu'elle est moins calorique, c'est pas forcément parce que son origine est approuvée qu'elle est plus saine, et c'est pas forcément parce que c'est une jolie devanture et un joli packaging que tu vas pas t'empoisonner à la longue. Donc voilà comment on arrive à nous faire bouffer des concepts. Au fond, c'est ça.
C'est ça.
Voilà.
Eh ben, c'était bien.
C'est vrai.
Ça m'a donné faim.
C'est vrai. Alors moi, du coup, un peu moins, parce que ces derniers temps, j'étais très... je vais parler un petit peu de moi. J'étais très à manger dehors, notamment qu'il y a un concept qui m'a beaucoup plu, le fait de se faire livrer de la nourriture en vélo, qui est moins polluante, etc. Machin. Oui. N'empêche que tu te fais quand même livrer de la nourriture qui est de la nourriture rapide, de la fast food. Et qu'à un moment donné, ça a quand même un impact sur ta façon de consommer. Ça veut dire que tu fais plus la cuisine, que tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais bon, sous prétexte que c'est joliment présenté et que c'était vendu comme un truc de qualité.
Ça
bon,
passe.
Allez. Voilà. Mm-hmm. Bon appétit, bien sûr.
Et ben,
un peu de musique.
On peut se mettre un peu de musique.
Allons-y.
spider girl. Why won't you save me? You're afraid of yourself. So why won't you save me? How can you trust in a monster like me? A monster like me. How can you trust in a monster like me? How can you trust in a monster like me? I've been something else before, but this time is over. I'll never be the same. Spider girl, you're pretty good, pretty superhero now. So you've got to learn to save yourself before me, to help the other better. Always save yourself before me. Save yourself before. Save yourself before me. Save yourself before. Oh, I've been something else before, but this time is over. I'll never be the same. Spider girl.
C'était donc un titre de Dionysus, Spider Girl Blues. Et puis c'est à Fab de nous parler un petit peu d'un sujet sympathique.
Oui, alors je vais d'abord expliquer que je vais passer un petit documentaire de 5 minutes 17 exactement, qui va donc démarrer quand Clara pourra le lancer, mais je vais laisser un peu de temps parce que je vais le c'est présenter. Ah, oh, c'est prêt, mais elle est trop forte.
Oh, comment il... Enfin bon.
Non, mais c'est pour laisser du temps pour lui dire ne te stresse pas parce que moi je la vois pas, elle est dans mon dos. Et du coup, c'est, le documentaire s'appelle Noir pas Black. Alors c'est Guéric et Amandine qui sont noirs et ils n'aiment pas trop qu'on les appelle Black. Alors je vous lis le résumé. Hein. Ils sont nés comme eux dans les années 80. L'anglicisme black est censé désigner les personnes noires en France. Derrière son masque cool et funky, le mot cache un vrai malaise dénoncé ici avec humour et des extraits salés. Alors, je vais préciser, ça vient d'Arte Radio. Donc, comme c'est une collaboration entre guillemets forcée, parce que on l'aura un peu piqué, je vais quand même citer que c'est mis en onde et mixé par Samuel Hirsch et que la réalisation est de Ilham Mad et que ça date d'octobre 2015. Et on peut y aller.
Nouveau Black Magic.
Waouh, regarde. Essaye, ça marche.
Black Magic, le numéro 1 pour le noir.
Ce que j'explique souvent, c'est que je suis devenue française en Australie. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, quand on me disait « tu viens d'où ?» et que je répondais « je suis française », ce que me répondaient les Australiens, c'est « ron ron ron, baguette, to Raphael ». Mais c'était jamais de me dire « mais vraiment, tu viens d'où ?» Voire même, on m'a dit « oui, bah oui, alors toi, vraiment, t'es française parce que tu mets des chaussures qui vont avec ton foulard. » Moi, j'avais des trucs comme ça. Et moi, je me disais « mais c'était la première fois qu'on me disait que j'étais un archétype de la française. » Je veux dire, il a bien fallu que j'aille en Australie pour qu'on me dise ça.
Black Magic Woman. Elles sont sensuelles.
Moi, je m'appelle Amandine, j'ai 30 ans et je vis à Saint-Denis, dans le 93.
Black Magic Woman, les plus belles voix féminines de la dance et du disco.
En France, je suis arrivé, on me dit d'où tu viens. Je vais dire, je suis de Sergi-Pontoise. Ah non, 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 ton pays d'origine. Guadeloupe. Ah ouais, c'est bien chez vous. Ouais, j'aime bien les blagues de chez vous. De chez nous, où? Au State ou sur la plaine Blackie? Parce que chez moi, il n'y a pas de black, hein, il n'y a que des noirs.
Voici un homme black et d'équerre.
Je m'appelle Guéric, j'ai 35 ans et je viens de Sergy-Pontoise dans le 95 en Ile-de-France.
Le chevalier black.
Moi, je dis toujours white quand on m'oppose black en me disant c'est pas un problème. Mais enfin, est-ce que nous, on va avoir les blancs en leur disant parce que vous, les white, ah, j'étais tout à l'heure avec mon copain white au supermarché. Nous, on fait pas ça. Et quand on le fait d'ailleurs en disant white, on perçoit tout le ridicule de la chose.
Parfois, cela devrait être noir. Nouveau All Days Black, le premier protège noir.
C'est qu'en France, les blancs n'existent pas. Et par contre, la façon de parler des non-blancs existe et évolue avec le temps, parce qu'effectivement, bah, d'abord, on était sur des termes purement et simplement racistes, avec bamboula, négro, nègre, bico, bougnoule. Et puis après, ça a évolué, on est arrivé à black, beurre. Donc je sais pas quand est-ce que ça a commencé exactement. Moi, je marque ça aux années 80, le hip-hop, voilà, la black music.
Énergie présente.
Total Black. Entrée dans la spirale de la musique black. Total Black, la plus groove des compilations.
Black, c'est américain. C'est le noir américain qui réussit. C'est le black, le sportif, le Carl Lewis qui te ramène 12 000 médailles d'or au pays. C'est en fait tout le côté positif, mais le côté un peu pantin, quoi.
Je dis souvent que la négrophilie, c'est l'autre versant de la médaille de la négrophobie. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont obsédés par le fait qu'on est noir et qui en font un truc négatif et qui veulent absolument dire qu'on est moins intelligent, qu'on est des singes, qu'on est le chaînon manquant de l'humanité. Puis il y a ceux qui sont mal à l'aise avec toute cette histoire d'exploitation, d'asservissement des noirs et qui du coup essayent de compenser en disant « Moi j'aime les noirs, j'adore l'Afrique, je joue du djembé, j'ai des dreads. » J'emploie le mot black, j'écoute du hip-hop.
Black Groove, l'album de la nouvelle génération groove.
Même ça avait une dimension positive dans les années 80, parce que même c'est un terme qui a été repris par les noirs eux-mêmes. Un certain nombre de noirs, même encore aujourd'hui, certains disent black, hein, pour se définir ou pour parler de quelqu'un qu'ils connaissent.
Ah, ça va le Comedy Club, ça va bien? Mortel, ouais, il a dit je m'appelle Walidia. Dia, c'est mon vrai nom de famille, hein, comme la célèbre marque de vêtements ou comme les magasins premier prix de merde. Alors c'est pourri ce magasin, la caissière elle est plus riche que les clients, ils peuvent même pas se payer un vrai vigile, t'sais, un black en costard qui te casse le bras si tu voles un paquet de chips.
Quoi qu'il arrive, on est français, même si on n'est pas français blanc, on est français quoi qu'il arrive, donc pas besoin de trouver des stratagèmes pour montrer pas de blanche si tu veux. Pour dire, vous inquiétez pas, nous ensemble, on est tous ensemble, on est tous pareils.
Il y a un gros déni sur les problèmes qui ont trait aux enjeux raciaux en France. Et donc, du coup, on essaye de tous les moyens de ne pas mentionner la question raciale.
Dans les doublages de films américains, j'ai en cité un qui est connu de tout le monde, ça menace Society.
Eh, négro, va y avoir de la meuf dans ce putain de truc. Ouais, va y avoir une de ces bandes de salopes. À plus savoir où foutre ta queue, crois-moi.
Il y a un moment, ils sont arrêtés par des flics.
Vous attendez pour me faire le speech sur mes droits, hein? Allez-y, lisez-moi mes droits.
C'est juste parce que je suis un black. C'est parce que je suis un black.
Non, vous trouverez rien, je vous parie votre sale peau de flicaille.
C'est parce que je suis un black.
Pourquoi ils doublent pas le mot black? Pourquoi ils disent pas c'est parce que je suis noir ou le dire c'est parce que je suis black? Comme si noir c'était une injure, alors qu'ils vont traduire les injures eux-mêmes. Il y a nigger dans tous les sens. Et ça, ils vont te le traduire en français. Négro. Mais le black, attention, le black, non, faut pas y toucher parce que c'est la dénonciation d'un noir en France.
Dire noir, ça veut dire qu'on prend conscience que l'autre en face, il n'est pas comme nous et que les blancs sont la norme. Et donc du coup, appartenir à la norme, c'est aussi être du côté du pouvoir et d'être du côté de l'agent qui discrimine. Encore une fois, qu'on le veuille ou non, on peut être gentil et même complètement se penser non raciste, mais en fait, si on dit black, c'est qu'on a un souci avec la question raciale, c'est qu'on est mal à l'aise. Et donc si on est mal à l'aise, on doit creuser là où on est mal à l'aise. Pourquoi ça vous met mal à l'aise?
Arte.
Moi je dis blanc.
Radio.
J'ai pas de problème.
Point.
Et je dis noir.
Voilà, 5 minutes 17 d'un très beau reportage. Alors je vais remercier Shanice qui, malgré le fait qu'elle habite en Jamaïque, écoute des choses en français et il m'a signalé ce documentaire sonore et je trouvais qu'il soulevait une question qui était intéressante. Alors je vais vous expliquer comment je suis arrivé à cette question-là et comment je suis arrivé à vous passer ce documentaire ce soir. C'est parce qu'en fait, vous savez qu'il y a une polémique en ce moment aux Oscars autour du fait qu'il n'y a pas d'acteur noir nommé ou nominé. Je crois qu'on dit nommé aux Oscars, et que du coup il y a des acteurs et des actrices qui appellent au boycott, voilà, ce qui est tout à fait légitime, je trouve, d'appeler au boycott quand quelque chose tourne au ridicule à ce point-là. Et du coup, ce qui était drôle, c'était que je lisais la presse française et je me suis rendu compte qu'ils avaient un mal fou à dire il n'y a pas d'acteur noir ou d'acteur de couleur. Voilà. Donc, il tournait autour d'aphorismes très marrants, du genre « Le black power des acteurs américains n'est pas encore arrivé ». C'est une belle phrase, hein. Donc, ou alors, vous aviez aussi « Les blacks aimeraient avoir leur place au cinéma ». Voilà. Alors, le problème, c'est que là-bas, aux États-Unis, quand ils disent qu'il n'y a pas d'acteurs blacks ou d'acteurs sino-américains, en fait, ils parlent de couleur de peau. Et black, c'est noir. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi on n'arrivait pas à le traduire dans la presse française pour dire les choses clairement plutôt que de tourner autour du pot. Et comme le soulignent les deux protagonistes de notre reportage, bah, je pense qu'effectivement, c'est parce qu'on a un petit problème avec la question raciale en France et qu'on tourne autour du pot par peur de... Alors, soit par peur de choquer, soit par peur de faire mal, soit par peur de... Voilà. Ou alors, tout simplement, parce qu'on est réellement raciste et qu'en disant le mot black, comme ça, on ne montre pas trop qu'on est raciste. Et le souci, c'est que dans les milieux progressistes et dans la presse progressiste, eh ben, vous verrez qu'on dit beaucoup black aussi. Et on dit rarement noir. Comme si, en fait, noir était devenu une insulte infamante, comme si ça pouvait pas juste désigner quelqu'un sans être négatif. Et puis, bah, comme le dit... alors, je crois que c'est Amandine, voilà son prénom, j'ai retrouvé. Comme le dit Amandine... ça devient ridicule quand on l'inverse, c'est-à-dire quand d'un seul coup, voilà, parce qu'on a entendu plein de jingles. Moi, j'adore le côté. On a donc tous compris que la femme noire qui chante est donc une black qui fait de la black musique et qui est forcément sensuelle. Hein, vous l'aurez entendu, hein, c'était le truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, a priori, il n'y a pas eu de grande blues woman qui chantait autre chose que de la sensualité. Non, non, là on dira pas black. Là, c'est pas black music. Oui. Alors que ben, le blues, par essence, il est noir, quoi, comme le disait très bien Nougaro. Et donc, du coup, c'est très étonnant, cette espèce de climat malsain qui tourne autour de cette notion-là, parce qu'il y a de plus en plus d'associations qui, aujourd'hui, demandent ben, qu'on abandonne le mot black. Voilà. C'est notamment le cas du CRAN, avec tous les défauts que peut avoir cette association, mais qui a fait un excellent texte en disant, à un moment donné, noir, c'est une couleur, c'est pas une insulte, donc on va peut-être arrêter de tourner comme ça autour des choses. Puis surtout, ça donne des phrases surréalistes. Alors, par exemple, je me l'étais noté, puis j'ai perdu mon papier. J'ai essayé de vous la faire de tête. C'était dans un Julie Lescaut. Alors, déjà, Julie Lescaut, on voit que c'est du haut de gamme, hein, quand même. Donc, mais c'est quand même regardé par 12 millions de téléspectateurs, hein. Donc, on va arrêter de dire que ce n'est pas regardé. À l'époque, c'était 12 millions de téléspectateurs. Et donc, dans Julie Lescaut, il y avait Ngouma, hein, qui était donc un policier noir. Et ben en fait, il y a une sociologue qui s'est amusée à compter combien de fois on l'appelait noir dans la série et combien de fois on l'appelait black. Voilà. Ben en fait, il n'a jamais été appelé noir. Hein. Il a toujours été. Et donc, Julie Lescaut disait c'est mon inspecteur black. D'accord. Voilà. Vous voyez, c'est un peu bizarre quand même, dit comme ça, surtout quand on connaît les positions de Véronique Jeunesse. Mais
Black Inspector.
Là, mais voilà, mais c'est super étrange. On est en France, alors que dans la même série, elle avait un inspecteur d'origine chinoise, et elle disait, c'est mon inspecteur jaune. Oh. Et là, tout de suite, d'un seul coup, on se dit, il y a comme un truc qui cloche. C'est-à-dire que le fait, en fait, de faire des distinctions bizarres comme ça... Et ben vous arrivez à un moment où vous vous rendez compte qu'en fait, ben comme le souligne Amandine dans le reportage, vous êtes juste en face de quelque chose de raciste, mais qui ne dit pas son nom. Et voilà. Donc moi, ça m'intéressait. Alors, j'ai pas de réponse, de solution, mais je trouvais que c'est drôle que dans ce climat en ce moment où justement il y a cette histoire autour des Oscars, ça fasse ressortir cette notion qu'en France, on n'arrive pas juste à dire noir. je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas grave.
Complètement, quoi. C'est ça, c'est que ça dramatise le truc. Enfin, j'ai l'impression que c'est dramatiser le truc.
Mais je crois, moi,
on
je
va tourner autour du pot. Mais pour
ça cache quelque chose, voilà. Vraiment.
Il y a d'autres raisons. Parce que de toute manière, il y a toujours des tas de façons de parler de manière insultante des gens.
Oui,
quoi vraiment. Qu'il arrive, tu vas parler, par exemple, des Arabes pour désigner des personnes qui vont être mates de peau. Tu vas dire. Comme elle disait tout à l'heure, bougnoul ou des trucs comme ça, voilà. Tu sais de qui tu parles, mais non, c'est un tu générique. C'est un tu générique. Mais oui, en effet, tu vas en parler en disant, de manière désagréable, de manière insultante, et tu peux le trouver. Pareil pour les blancs, tu peux trouver des trucs qui sont insultants, que ce soit à face de créer pisse de lait, non, merde de laitier, ou alors des trucs plus récents comme paillot, babtou, qui représente un petit peu le blanc premier de la classe.
Ouais, sauf que ce sera toujours moins impactant, dans le sens où, comme elle le dit, moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée du privilège blanc qu'elle décrit assez bien.
Oui,
c'est-à-dire que
c'est la norme.
Le blanc, il est
c'est ce qu'elle dit.
norme. Il n'est pas discriminé. Enfin, je veux dire, même si quelqu'un dans la rue va dire sale blanc, l'impact est extrêmement limité sur la vie de la personne qui va pas subir ça en permanence. Voilà.
Mais par contre,
par rapport à quelqu'un qui, lui, va être systématiquement discriminé par la façon dont on va l'appeler.
Je sais pas si j'ai juste une remarque à faire là-dessus, c'est que c'est pas forcément vrai. Enfin, je dis pas, le racisme n'a pas de couleur, tu vois. Ça fait partie des, c'est comme la connerie, c'est ce qu'il y a de mieux réparti.
Je dis pas qu'il y a pas de racisme.
En revanche.
Je dis qu'il y a pas d'impact, le même impact.
Voilà. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce soit aussi, voilà, c'est ça, c'est que dans le propos, au final, là où Amandine a raison, et puis il y a pas que Amandine, il y a, comment il s'appelle ?
Guéric.
Ils disent ça catégorise une personne. C'est ce qu'on disait pendant les prépas. Le black, c'est Eddie Murphy. C'est hey, mec.
Non, mais c'est ça.
Et du coup, ça va avec un accent, avec un truc qui n'est pas forcément flatteur, pas non plus asympathique, absolument, clairement raciste. D'un autre côté, moi, ce que je ne comprends pas, et là, c'est à titre personnel, c'est qu'il y ait autant de tensions entre le fait, enfin, avec tous ces termes-là. C'est-à-dire que dès que tu dois parler d'une personne qui n'a pas la même couleur que toi, normée, etc., parce que tu es blanc, tu vas être gêné. Pourquoi t'es gêné ? Enfin, tu vois, c'est pas grave.
C'est ça.
T'es noir, t'es black, je sais pas ce qui te passe par la tête, faut pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je me dis qu'il faut. Pas trop se prendre la tête non plus.
Bah, en fait, pour en avoir quand même discuté avec 2-3 personnes.
Voilà.
Ce qui m'intéresse, c'est la notion de retour, parce que en fait, c'est pas le mot black qui les dérange, c'est le fait que ça sert à cacher quelque chose. Et ça, je le conçois parfaitement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sert à cacher, souvent, dans 90% des cas, comme dirait mon pote Idriss, ça sert à cacher en fait le fait que on est mal à l'aise et que c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, on devrait pas être mal à l'aise. Je veux dire, des personnes noires en France, il y en a depuis très longtemps, et on devrait pas continuer à être mal à l'aise du fait de parler à une personne noire. Vous voyez, et que quand d'un seul coup on prend des pincettes, alors soit parce qu'on pense bien faire. Là, je vais reprendre une phrase de tête de mon pote. Et comme il me dit, c'est soit on pense bien faire, mais du coup on en fait trop, et c'est ce qu'elle appelle la négrophilie dans le reportage. Et là, on en devient ridicule et qu'on dit à quelqu'un « Ouais, j'adore l'Afrique, machin et tout » et que la personne, elle y a jamais mis les pieds, elle est née à Trappe et elle s'en fout complètement parce qu'elle a pas du tout l'intention de retourner en Afrique, perso. Ouais. Et que quand même, on l'a identifié comme africain, donc faut lui dire. Et c'est ridicule. Et donc, du coup, vous tombez dans une espèce de catégorisation que toute personne noire est forcément primo-arrivante. C'est-à-dire qu'elle est migrante récemment, ce qui n'est pas vrai. Donc ça devient surréaliste, et c'est que vous voulez faire bien, mais vous faites complètement dans les choux. Et puis il me disait, il y a l'autre aspect de tellement pas vouloir choquer que vous en devenez même ridicule parce que vous employez des paraphrases totalement débiles. Enfin, comme il me dit, c'est les gens qui vont dire « Mais tu sais, les gens comme toi. » Alors, comme il dit, tu veux dire quoi, les gens de Trappe? et c'est exactement le truc. Voilà. Et lui, il a cette réponse à chaque fois. Je lui pique. Je sais qu'il m'écoute ce soir, donc je fais un petit coucou. Il a cette réponse. Chaque fois qu'on lui dit black, il dit Edeker derrière.
Bah oui,
voilà, parce que c'est un petit moyen de dire je ne suis pas une marque, merci. Et comme c'est souligné dans le reportage, faut pas oublier que derrière la notion du mot black, on y colle toujours le côté positif et comme il le dit, pantin. C'est-à-dire que celui qui a le droit d'être black, c'est Yannick Noah. Parce que Yannick Noah, il fait gagner des prix à la France. Par contre, bizarrement, le jeune de banlieue, qui est arrêté par les flics, et parfois abusivement, et même assez souvent, lui, par contre, on l'appelle pas black dans les médias, vous avez remarqué, c'est d'origine africaine. Mm. On souligne bien qu'il est pas de chez nous, lui, quand même. Mm. Et c'est ça qui dérange beaucoup, c'est que ce mot générique sert quand même à vachement distinguer et à faire un distinguo qui est hyper malsain. Et donc, je trouve légitime, enfin, c'est pour ça que j'ai passé ça, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous rappellent à l'ordre en disant, revenez un petit peu sur terre, arrêtez avec vos conneries, puis utilisez les bons mots, quoi.
Enfin, mais moi, je dirais que ça va un petit peu avec le côté arabe ou maghrébin. Tu vois, ce genre de mots-là, où finalement, je pense que c'est la manière dont c'est dit. Enfin, faut me contredire si je me plante, mais je pense que c'est aussi dans la manière dont c'est dit, dans l'intention qui fait passer. Si par exemple, tu vas voir un type et tu lui dis, les gens comme toi, black, en faisant une espèce de mou un peu bizarre, parce que t'es pas du tout à l'aise avec le truc, bon, bah oui, là, en effet, tu sens qu'il y a un truc.
Mais la vraie question,
après,
c'est
en fait,
pourquoi
déjà,
besoin...
t'as pas besoin de dire les gens comme toi.
Mais c'est ça, mais
voilà,
la
c'est ça. Déjà, t'as pas besoin d'établir forcément une distinction à partir du moment où t'es pas.
Mais c'est ce que dit Amandine dans le reportage. Je crois pas qu'on arrive vers les gens en disant alors t'es allé faire les magasins avec ton pote white. Jamais.
Après, voilà.
On dit jamais. D'ailleurs, on était déjà allé faire les magasins avec ton pote blanc.
Quand tu vas distinguer les gens, tu vas dire, tu vas dire, je sais pas, adresse-toi à telle personne.
Mais que ce soit un particularisme, par exemple, quand tu décris quelqu'un, c'est pas gênant. Mais au même titre que je pense que quand les gens me décrivent, tiens, les gens vont peut-être découvrir à quoi je ressemble derrière le micro. Mais je pense qu'on doit dire assez facilement, tu sais, c'est le petit gros avec des pics sur la tête.
Mais c'est ça, t'es rousse, t'es blonde, t'es machin.
À la limite, ça, c'est la façon de parler entre deux personnes. Le problème, c'est quand on s'adresse aux gens et qu'on les catégorise systématiquement. Mmh. Je vois pas l'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est surréaliste d'arriver vers quelqu'un et de dire, alors, quelqu'un qu'on connaît pas, parce que c'est un peu pas ce qui est dans le reportage, mais qu'on entend souvent, le nombre de personnes qui sont, quelle que soit l'origine ethnique à l'origine, et à qui on va les ramener à leur supposée origine, du genre, vous asseyez à côté d'un Asiatique et vous lui demandez si c'est cuisiner les nems. Enfin, non, mais je donne un exemple super fréquent. Et ça va tout. Et c'est hallucinant qu'aujourd'hui, en 2016, on en soit encore, quand on voit quelqu'un qui n'est pas censé, entre guillemets, d'être de la culture dominante blanche, de lui poser des questions sur alors, et c'est comment ton pays, machin, alors que la personne, elle ne sait ni où elle est née, ni pourquoi, machin, si elle est là, si elle est migrante ou pas, et si elle a envie de vous parler de ça. Mais systématiquement, il y a ce côté-là. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que me disait Shanice, qui est, elle, jamaïcaine, c'est que les touristes, systématiquement, c'est pareil en Jamaïque, ils aiment bien la black culture. Sauf qu'en Jamaïque, en fait, ils ont la culture jamaïcaine, pas américaine.
Oui,
et que du coup, ça colle pas. C'est qu'on parle en tant que blanc. C'est-à-dire qu'on arrive et que nous, on met tous les noirs.
C'est un packaging.
Alors que ça a rien. Enfin, c'est pas forcément. Mais oui. Mais il y a.
Même si c'est pas fait méchamment.
Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que, voilà, là, quand tu. Ce qu'elle disait aussi dans le reportage, c'est que black, ça va être utilisé aussi par des personnes noires pour dire, black, etc.
Mais c'est l'intégration. Mais ça, je veux dire.
Je pense que le truc où c'est vraiment problématique, c'est quand, tu cherches des, comme tu disais, des mots pour dissimuler un malaise.
Mais
de la même manière que tu vas chercher des mots pour dissimuler un malaise dès que tu veux différencier une personne de toi.
Ne partez pas du principe que toute personne qui est différente est une oppressée qui a besoin qu'on prenne soin d'elle.
C'est ça.
Rappelez-vous que si elle a besoin.
En fait, il faut arrêter de victimiser peut-être.
Et en plus, je trouve que c'est ramener une personne à quoi ? À une couleur d'épiderme. Enfin,
mais c'est ça.
Et c'est genre, on est des. Ou à une sexualité, genre. Ce truc-là, il est hyper décisif dans ce que t'es. en quoi, en fait ? Parce que, en fait, c'est...
Et puis, pour citer mon pote Idriss une dernière fois, avant que je passe la musique, 23h07,
c'est ça.
Je citerai une phrase qui m'a sorti dans un mail récent. Il m'a dit, tu sais, Bongo est aussi noir que moi. Voilà. Et je trouve que ça résume bien le fait que les Noirs, c'est divers. Il y a même des dictateurs.
C'est des individus. Ah ben je crois qu'on veut de la musique.
Pardon, j'ai pas dit. Et musique.
D'accord.
Et oui, 10 secondes. Même en fait, il n'y avait même pas 10 secondes. Alors, c'était la douce voix de la chanteuse de Arch Enemy qui vous a chanté No Gods, No Masters. Ça fait du bien, hein, ça nettoie les oreilles. Et voilà, je vous en repasserai. Je vous préviens d'avance. Donc, ouais. On va faire les brèves vite, parce qu'on est super à la bourre.
Je crois que tu voulais pousser les gens à aller au cinéma.
Ah oui, moi je voulais faire de la propagande cinématographique en disant aux gens, allez voir The Big Short, le casse du siècle. Alors, j'ai complètement zappé de noter l'auteur et la date de fin de diffusion, mais c'est bientôt, ils arrêtent de le passer dans les grandes salles, alors après il n'y aura plus que les petites salles, mais ça serait bien de, pour le coup d'aller le voir au cinéma, parce que c'est un super bon film qui parle, finalement, qui est présenté comme un truc un petit peu comique, parce que c'est avec Steve Carell, avec
Brad
Pitt, il y a un petit peu d'humour dedans, mais je pense que c'est la meilleure sortie 2015.
Voilà. Si vous voulez comprendre l'économie, c'est un excellent film.
Voilà, c'est un film didactique et pédagogique sur la question des finances, et c'est énorme. C'est juste énorme. Mais allez-y. Mais franchement, mais juste.
Courez le voir.
Prends ta place là maintenant et tu y vas. Tu te lèves et tu vas.
Il n'y a plus de séance à cette heure-ci.
Demain. Ah, okay. Matin.
Au réveil.
Tu y penses. Tu réserves sur internet.
Et alors, on continue. Alors là, on va rentrer plus dans un agenda un peu plus défini quand même. C'est lundi, c'est demain effectivement. Il y a un soutien de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui, comme vous le savez peut-être, en fait, des habitants historiques du coin risquent d'être expulsés. Pardon.
C'est demain qui rendent le.
Ouais,
le
c'est ça. Donc, il y a rassemblement devant le TGI, tribunal de grande instance, c'est la fatigue, je pense. Donc, ça commence à 18h, donc c'est 67 rue Servian, c'est dans le 3e arrondissement de Lyon. Et on continue avec.
Avec un appel à la grève dans le secteur public qui est lancé par la CGT, FO, Solidaire et bien d'autres. Et voilà, donc la manifestation se fera à 10h à partir de la place Jean Massé jusqu'à la place Bellecour, et c'est donc le 26. Voilà.
Puis la troisième, ce sera le 28 janvier, dans une librairie qui s'appelle Un Petit Noir. Mmh. Voilà. C'est le lancement de deux ouvrages sur les prisons à partir de 19h30. Donc c'est 57 montées de la Grande Côte. C'est beau comme une prison qui brûle de Kiyou. Et à ceux qui se croient libres, de Nadia Maninger. C'est la présentation de ces deux livres, et qui se fera aussi sur Radio Canu dans l'émission La Petite Cuillère.
En direct de là-bas. Parce qu'on sait faire de la radio hors les murs, tout ça.
C'est voilà. Ça. Rendez-vous suivant.
Oui, alors juste La Petite Cuillère, c'est à 20h par contre.
Oui, ça c'est
commence,
ça.
Ah, oui.
Et c'est, ce sera donc le 28 à 20h.
Ouais. En fait, si vous voulez aller sur place, c'est à partir de 19h30. Et si vous voulez y aller depuis chez vous sur la radio, c'est à partir de 20h.
Voilà.
C'est ça. Et ce sera le 28.
Next. Moi j'ai plus rien.
Alors le 29, vendredi 29, oula, j'ai écrit quoi? Ah oui, c'est à La Plume Noire, pardon. J'arrivais pas à relire La Plume Noire. Donc c'est à La Plume Noire, le vendredi 29 à 18h30, il y a une rencontre autour du collectif, du collectif Nord Zartonk, ça doit se dire comme ça, avec la présence de Sayat Tekir. Et en fait, c'est un mouvement de la minorité arménienne en Turquie qui a élargi ses luttes depuis sa création à toutes les défenses de toutes les minorités. Donc ils invitent à venir les rencontrer. C'est vendredi 29, donc à 18h30 à La Plume Noire, qui est rue Burdeau, je crois.
Je ne
dis pas de bêtises.
Je crois que c'est ça.
Voilà.
Et enfin, le 30 janvier, il y a une formation rencontre sur le droit d'asile et les luttes marseillaises. Wesh.
Représente. Représente les quartiers nord, tout ça.
Voilà, Marseille, tout ça, bisous. À 18h30, à La Plume Noire. C'est organisé par le collectif Soutien Migrant 13. Et c'est surtout destiné à un petit peu se renseigner à comment se débrouiller en étant tout neuf.
Migrants
arrivant.
Ou soutien de migrants.
Voilà, pour les migrants, soutien ou pour les personnes qui soutiennent.
Et on ne l'a pas dit, mais il y a aussi toujours, tous les lundis, il y a une permanence à la lutine à partir de 18h30 pour aider les migrants et migrantes.
Voilà. C'est ça. Oui, parce qu'il y a des femmes aussi.
Mais on les oublie souvent, malheureusement.
C'est ça. Eh ben, je crois que oui, il est bien l'heure de rendre l'antenne. Oui,
j'ai juste un dernier point et je suis désolé après. Non, mais je vous jure, c'est rapide.
Mais vas-y.
Voilà, c'était juste pour rappeler aux auditeurs et aux auditrices de la radio que nous sommes très très preneurs si vous êtes des groupes, des choses, des gens qui faisaient des choses à la causerie pour que vous viendiez nous voir parce qu'on le dit pas assez, il paraît. Alors je le dis.
C'est vrai.
Écrivez-nous ou venez.
Venez.
On aime les gens.
Ouais, enfin, avant de venir, vous nous contactez, on discute. Ouais, je suis le moins sociable de tous dans cette émission.
Sinon, ce que vous faites, j'étais c'est que vous venez, c'est au 24 rue Sergent Blandan, ouais. Et puis nous, on est là en général à partir de 21h30, voilà. Et puis vous pouvez venir nous voir, nous écouter directement derrière notre petite vitre du studio, ou alors directement dans le studio.
Oui, parce que même si vous voulez juste voir comment on fait une émission de radio, venez, c'est avec plaisir.
Voilà, puis vous papotillez avec nous.
Bah ouais, quoi. On n'est pas une grosse radio, tout le monde peut rentrer ici.
Oui, et c'est même repeint, c'est tout joli.
C'est vrai. Bon, allez, ouais, je me tais.
Et avec quoi on se quitte, Clara, comme musique?
Alors, on se quitte avec Mary Boyne et son titre Ejagidas.
Et ça veut dire quoi?
Dans la main de la nuit.
Oh,
c'est en quelle langue?
C'est du sami.
Ah ben voilà.
C'est ça.
Voilà.
Comme ça, voilà.
Et c'était, ça vient de Laponie.
Et c'était Voy Voy Mou la dernière fois.
Oui, c'est ça.
Ah, voilà. Voilà. C'est cool.
Et tu veux dire Voy Voy Mi? J'ai regardé sur le truc.
Voy Voy Mou, ouais.
Voilà. C'est ça.
Et ben, on se laisse là, quoi, en fait.
On vous abandonne.
On va y aller. Ça fait 20 minutes de plus, donc on va peut-être couper.
Ouais, grave.
Bonne nuit à tous.
Qu'est-ce qu'il y a?
Des bisous.
Oh, je craque, des bisous. Enfin,
bisous, bon courage pour la semaine. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Telemakane yonana setena ya nani yana se navaya. Ezenake yaman ezenove yanahani yamaso kerena Ezenake mariana sone yere hevena yake verena. Con Lori, nada más.